Sculpture, question du soir, Matteo Caranta.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Question du soir consacrée aux conditions et aux ressorts de la paix en République démocratique du Congo.
C'est un accord historique. Il est donc temps d'en finir avec ce conflit. Il est temps pour le peuple du Congo et les populations de la région des Grands Lacs, plus globalement, de prospérer. En ce qui concerne les accords précédents, oui, il y a pu y avoir des accords précédents, mais il n'y a jamais eu d'accord global comme celui-ci.
Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFCM-23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que l'AFCM-23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit.
Le M23, ce sont eux qui ne respectent pas le protocole qui a été signé. Il n'y a pas 3 jours, ils nous ont encore attaqué à Rurambo. Et il n'y a pas 2 jours passés, ils ont encore attaqué Kigarama. Nous ne pouvons pas croiser les bras, voir les gens en train de venir nous attaquer et les laisser faire. Non, nous sommes là pour la défense de la patrie.
Vous l'aurez compris, le processus de paix en République démocratique du Congo connaît une accélération ces dernières semaines, mais il reste particulièrement fragile. 2 accords ont été signés. Le premier à Washington entre le Rwanda et le Congo. Le deuxième à Doha au Qatar entre les représentants du gouvernement congolais de Félix Tshisekedi et le mouvement rebelle AFC M23. 2 accords, 2 niveaux de discussion, 2 calendriers, de diplomatie parallèle aussi. Et l'espoir d'arriver enfin au terme d'un conflit qui ravage le pays depuis bientôt 30 ans. Seulement voilà, le cessez-le-feu semble déjà se fissurer. Les échéances promises ne sont pas respectées. Alors que faut-il retenir de ces accords? Sont-ils voués à l'échec? Quels sont les rapports de force qui régissent aujourd'hui ces négociations? Qui pour assurer la paix en République démocratique du Congo? C'est le sujet que nous vous proposons dans Question du soir. Et avec nous pour en parler, 3 invités. Mariam Alagardis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grande reporter à Libération. Vous couvrez la question centrafricaine et africaine en général pour le quotidien. Vous êtes autrice de plusieurs livres sur le génocide des Tutsis au Rwanda. En particulier, je cite le dernier d'entre eux, sur la piste des tueurs rwandais.
Non, c'est pas le dernier, mais c'est avant la nuit. C'est un roman.
Alors, c'est un roman, oui, bien sûr, mais sur la question du Rwanda, c'était publié aux éditions Flammarion avant la nuit, un roman que vous avez publié l'année dernière, je vous en prie. Également avec nous, mais à distance, Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Liège, au département de sciences politiques, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs. Vous avez co-signé dans le dernier numéro de la revue Nouvelle consacrée au Congo un article « Entre quête de légitimité et promesses non tenues, le régime Tshisekedi à l'épreuve du pouvoir ». Enfin, Séverine Hautser, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités et titulaire de la chaire Anne Whitney Olin au département des sciences politiques de la faculté Barnard de l'Université de Columbia. Vous avez publié récemment Sur les fronts de la paix aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. C'était en 2024. Merci à vous trois d'être avec nous. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h. Eh bien, pour commencer cette émission, Mariam Alagardis, si vous le voulez bien, nous pouvons rappeler aux auditrices, aux auditeurs qui l'ignoreraient, ce que représente la République démocratique du Congo et ce conflit. Deuxième plus grand pays d'Afrique, 4 fois la France, à peu près, la moitié de l'Europe occidentale, ce serait une autre manière de le dire. 112 millions d'habitants, 5 langues officielles, un pays extrêmement riche du point de vue de son sous-sol, de sa démographie, de sa croissance économique, mais aussi un pays qui vit, comme vous l'écrivez vous-même dans un de vos articles, l'une des plus graves tragédies contemporaines.
Oui, elle n'est pas nouvelle. À vrai dire, le destin et l'histoire de la République démocratique du Congo, qui s'est longtemps appelée Congo puis Zaïre, a toujours été jalonné de tragédies. Sa naissance même est une quelque part une aberration historique, puisque il faut peut-être le rappeler en deux mots, c'est un pays qui est né du rêve et de la volonté du roi des Belges Léopold II, qui se trouvait un peu à l'étroit dans son propre pays, et qui a missionné le célèbre explorateur Stanley pour aller conclure des accords ou extorquer des accords avec des chefs locaux, qui ont permis finalement de dresser les frontières de ce véritable monstre, pays monstre, qui est... Faut savoir qu'entre l'est de la République du Congo, qui est l'objet des accords de paix dont nous allons discuter ce soir, et la capitale Kinshasa, il y a plus de 1500 kilomètres de distance et aucune route.
C'est un pays qui s'est rêvé aussi comme le Brésil, autre pays monstre ou monde en fonction, voilà, on pourrait les appeler de deux manières, mais qui n'a pas eu le même destin.
Je pense que le Brésil a eu, avec tous les malheurs qui ont affecté le Brésil, a eu beaucoup plus de chance. Je veux dire, l'histoire du Congo est finalement jalonnée d'exploitation, d'extorsion, de manipulation, de pillage de tous côtés. Un opposant congolais avec qui je discutais il y a deux jours me disait, mais rends-toi compte que la façon dont Léopold II l'a conçu comme ça, d'abord sa propriété privée avant de le céder à la Belgique qui au départ n'en voulait pas, c'était comme un énorme espace commercial. Et il me disait que le premier pays à avoir reconnu cette entité absurde en soi, géographiquement déjà, c'était l'Amérique. Parce que d'ores et déjà, c'était conçu comme un espace voilà, de commerce et de pillage. Nous avons eu le caoutchouc, nous avons eu l'uranium, nous avons maintenant d'autres minerais. Et nous avons des conflits, des violences, une impunité, un chaos et une absence d'État depuis, je dirais, quasiment l'indépendance.
Alors Bob Kapamba, ce qui nous occupe ce soir, c'est ce conflit à l'est du pays. Il faut se représenter effectivement Kinshasa à l'ouest du pays et cette région, le nord Kivu, le sud Kivu, Congo qui est pays frontalier du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, de l'Ouganda, ce qu'on appelle la région des Grands Lacs. Est-ce que vous pouvez, si vous le voulez bien, nous rappeler où en est ce conflit aujourd'hui? Quelle est la partie du pays, la part du pays qui est occupée par des milices, alors des milices qui sont regroupées majoritairement sous un groupe, hein, l'AFC M23, un collectif de milices, si on peut l'appeler comme ça. Quelle est la part du pays qui n'est plus sous le contrôle du gouvernement aujourd'hui?
Donc, lorsque l'on essaye de regarder la carte donc de la République démocratique du Congo, on voit bien les différentes localités qui sont occupées par cette rébellion. Donc, on peut estimer géographiquement que c'est plus ou moins un peu plus de 40 000 km², ce qui fait l'équivalent de plus ou moins le Rwanda et la moitié donc du Burundi. C'est déjà plus grand que plusieurs pays africains comme le Libéria ou bien comme le Togo et bien d'autres.
Ironiquement, c'est la taille de la Belgique, hein, 40 000 m².
Exactement. Plus ou moins 12 millions d'habitants, un peu l'équivalent de la Belgique, qui sont occupés aujourd'hui par la rébellion. Et cette région, elle a deux capitales, le Goma et Bukavu. Et en termes de poids, il faut bien se rendre compte que le Nord Kivu, en termes de poids, je veux dire budgétairement par rapport à Kinshasa, c'est la quatrième région la plus riche et qui apporte budgétairement un peu plus que d'autres provinces. Elle se situe à la quatrième position. Et le Sud Kivu se situe à la cinquième position. Et donc, c'est qui peut illustrer plus ou moins le poids de la région qui est contrôlée aujourd'hui par cette rébellion, l'AFC M23. Et cette même région, ce qu'il faut souligner, cette même région dont on parle, elle est riche en minerais, elle est riche en population, riche en ressources agricoles, riche en ressources minières. Et dans les ressources minières, il y a principalement l'or, et il y a aussi d'autres minerais comme le coltan, comme la cassiterite, comme le wolframite, etc., qui sont intéressés, bien sûr, sur le marché international. Et donc, lorsqu'on regarde les potentialités de ces 12 millions, plus la surface, plus les richesses, et donc on se rend bien compte qu'on est en train d'aller vers une gestion étatique à part, qui échappe et donc à Kinshasa, et qui peut s'autofinancer, et qui peut exister, qui peut résister, et qui peut rester longtemps dans cette situation, et si on n'arrive pas à trouver des mécanismes pour essayer de mettre fin à ce conflit.
Alors, derrière ce conflit, il y a effectivement aussi une situation humanitaire désastreuse, Séverine Hautessert. Alors là, les chiffres que nous avons trouvés avec l'équipe de Questions du Soir divergent. On peut prendre un rapport du HCR de 2025 qui dit que depuis mars 2022, des vagues successives de violences ont déplacé 4,6 millions de personnes dans les seules provinces du Nord et du Sud Kivu. Un autre rapport parle de 1 900 000 réfugiés. Il y aurait aujourd'hui 500 000 réfugiés. Médecins du Monde parle de 4 millions de déplacés. Pareil pour le nombre de morts. Alors Amnesty International parle de plus de 6 millions de morts en raison directe ou indirecte du conflit depuis 1998. Et Maria Malagardi, juste avant l'émission, me disait qu'elle n'était pas d'accord avec ce chiffre. Alors comment, pourquoi ce conflit est oublié et comment expliquez-vous, Séverine Hautessert, qu'on ait tant de sources, tant de divergences sur les conséquences humanitaires de ce conflit ?
Je pense que toutes les divergences sont dues au fait que la partie est du Congo, là où il y a la plupart des violences, est un endroit qui est très difficilement accessible. Comme le rappelait Maria Malagardis, c'est un endroit où il y a peu de routes. On se déplace par moto, par bateau, souvent sur des chemins de terre qui sont coupés. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres fiables par rapport au nombre de morts, au nombre de déplacés, au nombre de gens qui sont blessés. Je pense que tous les experts, qu'ils soient humanitaires ou politistes, universitaires, scientifiques, on s'accorde tous à dire que c'est l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Deuxième Guerre mondiale. Que l'on parle du chiffre, je dirais, entre guillemets, bas, c'est-à-dire les estimations les plus basses qui sont autour de 2-3 millions de morts, vers les estimations les plus hautes que vous citiez qui sont autour de 6 millions de morts, on est quand même sur un des conflits les plus meurtriers depuis la deuxième guerre mondiale. Et aussi en termes de crise humanitaire, c'est l'une des plus grandes crises humanitaires actuellement au monde et ça l'a été depuis 25 ans, 30 ans. Donc comment on en est arrivé là ? C'est un conflit extrêmement complexe, avec de nombreuses causes de violence, des causes internationales, nationales, locales. Et on a beaucoup parlé du M23 jusqu'à présent. Il y a quand même des centaines d'autres groupes armés qui se battent contre le gouvernement congolais ou contre le M23 actuellement sur le territoire du Congo.
Alors M23 peut-être pour situer les forces en présence et puis ensuite on va essayer de comprendre ce que peuvent ces accords de paix qui suscitent à la fois de l'espoir et en même temps peut-être un peu de pessimisme pour
de suspicion,
oui, pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Maria Malagardis, le M23 donc on le décrit souvent comme une milice à majorité congolaise, à majorité tutsi, soutenue par le Rwanda, qui aurait fait alliance avec l'Alliance Fleuve Congo, donc on va dire AFC, qui elle-même regroupe d'anciens alliés du gouvernement actuel congolais.
Oui, c'est une grande nouveauté par rapport à ce qu'a été le M23 à sa naissance et à son sa première émergence en 2012, parce que cette histoire, comme souvent au Congo, elle ne surgit pas de nulle part.
Il y a eu d'autres accords de paix.
Il y a eu d'autres mouvements. Alors, je ne sais plus, pas à vrai dire si aujourd'hui le M23 est encore à majorité tutsi. Ce qui est sûr, c'est que l'une des origines de sa naissance, de sa création, étant lui-même en partie issu d'un autre groupe rebelle qui aujourd'hui n'existe plus, était liée à la protection et à la garantie de la survie des Tutsis congolais. Et là, on remonte évidemment, et peut-être qu'il faut quand même l'évoquer brièvement pour vos auditeurs, à 94, je veux dire, non pas que la région de l'Est était une Suisse africaine avant 94. Et
quand vous dites 94, vous parlez du génocide.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, du génocide qui se déroule au Rwanda voisin. Génocide contre la minorité tutsi du Rwanda. À l'issue de ce génocide, les forces génocidaires en fuite, l'armée, les miliciens, les notables, franchissent la frontière avec la RDC qui s'appelait alors le Zaïre, il faut quand même le rappeler, grâce au soutien de l'armée française qui leur facilite le passage. Ils franchissent cette frontière avec armes et bagages, s'installent dans des camps très vite très organisés, avec un seul rêve, retourner au Rwanda et, comme ils disaient eux-mêmes, terminer le travail et reconquérir le pouvoir.
Donc c'est d'un côté la préoccupation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, Bob Kabamba, et de l'autre, la volonté d'une assurance sécuritaire de la part du Rwanda vis-à-vis de la mémoire du génocide des Tutsis.
Oui, plusieurs choses. Je voudrais préciser que lorsque l'on parle des origines de ce conflit, il faut bien aller au-delà de 1994. Hein. À l'origine, en fait, le problème est survenu lorsque l'on a commencé à politiser la dynamique communautaire. C'est-à-dire lorsqu'on a commencé à politiser le fait d'appartenir à une ethnie plutôt qu'à une autre. Lorsque, dans les années 70, le régime dictatorial de Mobutu organise les premières élections du fait qu'il y a une pression au niveau international pour demander à Mobutu de pouvoir essayer de libérer l'expression dans son pays. Et là, il va organiser les élections. Et au cours de ces élections, qu'est-ce que l'on va remarquer? Dans la partie Est, ce sont essentiellement des élus d'origine Tutsi, donc ce sont des Congolais Tutsi, qui sont élus aussi bien dans la province du Nord Kivu que dans la province du Sud Kivu. Alors les autres communautés qui vont à partir de là commencer à stigmatiser la communauté Tutsi en disant que non, elle a pris la place des communautés, d'autres communautés locales, et que les communautés Tutsi ne sont pas originaires du Congo. Et là, on commence cette campagne de stigmatisation qui va aller progressivement jusqu'à l'échelon de 1994 avec l'arrivée de Hutu dans cette partie de la région, qui va trouver déjà un terreau qui est déjà fertile dans une propagande anti-Tutsi et qui va s'amplifier et va créer, aboutir à la naissance de ces différents groupes armés qui vont évoluer jusqu'à avoir M23 tel que nous le connaissons, qui n'est plus nécessairement comme on l'a dit tout à l'heure, typiquement Tutsi, mais qui a beaucoup évolué avec l'intégration de toute une série d'autres communautés avec d'autres revendications. Alors, et du côté Rwanda, pour revenir à votre question...
rapidement, s'il vous plaît,
rapidement, pour revenir à votre question, c'est que par rapport au Rwanda, il faut bien se rendre compte que du côté rwandais, c'est un régime sécuritaire. C'est-à-dire que tout le régime rwandais est basé sur la sécurité, c'est-à-dire ne plus reconnaître ce que ce pays a connu au moment du génocide. Et pour ça, il est importantissime pour ces pays de pouvoir intervenir là où ils jugent qu'il y a des germes de liquidation ou bien d'extermination d'une population Tutsi, et ils sont dans l'obligation morale de pouvoir intervenir sur le territoire congolais dans cet objectif-là. Mais cet objectif-là, c'est un des objectifs qui n'est pas le seul.
On le voit, hein, se mêlent des enjeux identitaires, des enjeux mémoriels, des enjeux économiques dont vous avez déjà parlé, Bob Kabamba. Et peut-être, pour avancer un petit peu, je pense qu'en tout cas, les prémices et les bases sont posées. Je le disais, il y a eu deux accords. L'un signé par la RDC et le Rwanda, donc au niveau étatique sous l'égide des États-Unis, de Donald Trump, et puis une déclaration dite de Doha au Qatar, plus politique, entre le gouvernement de Tshisekedi et le mouvement rebelle, maintenant que nous connaissons, du M23. Quelle est la différence entre ces deux accords et que faut-il retenir de ces accords, Séverine Otser et puis Maria Malagardis?
Alors la différence, vous l'avez déjà bien mise en avant, c'est une différence en termes de l'un des accords est un accord international, celui qui a été signé à Washington, c'est entre deux pays, entre deux présidents, le président du Rwanda et le président du Congo. Et l'accord de Doha, c'est plutôt un accord qu'on va dire pour s'adresser aux causes de la violence nationale à l'intérieur du Congo. Donc une déclaration de principe sur les grands principes de ce qui pourrait éventuellement amener à un accord de paix entre le M23, donc le plus grand groupe rebelle au Congo, et le gouvernement congolais.
D'ailleurs, promis qu'au 29 juillet, il rendrait effectif les dispositions de cet accord de principe et rien n'a été fait. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, Séverine Otser, poursuivez, je vous en prie.
Non, mais vous avez entièrement raison. Rien n'a été fait dans le sens où c'est vraiment un accord très, très vague, l'accord de principe de Doha. La mesure principale, c'est un cessez-le-feu qui était censé commencer le 29 au plus tard, hein, et qui n'a absolument pas été mis en pratique. Encore aujourd'hui, hier, il y a toujours d'énormes combats entre le M23 et le gouvernement congolais et aussi des milices qui soutiennent soit le M23, soit le gouvernement congolais. Mais je voudrais aussi, vous parliez des différences entre ces deux accords. Moi, je voudrais souligner les similarités entre ces accords. Et les similarités, c'est que ce sont des accords qui sont représentatifs de la construction classique de la paix, celle qu'on a essayée depuis 30 ans au Congo et qui n'a jamais marché. C'est des accords entre élites, entre grands décideurs, entre présidents, entre un président et un chef rebelle. C'est des accords pilotés de l'extérieur, pilotés à Washington, à Doha, au Qatar. Et c'est des accords dans lesquels n'ont pas été impliqués les gens qui vivent le conflit, les gens qui peuvent vous dire exactement pourquoi ils se battent et ce qui est important pour eux et comment, d'après eux, on peut faire la paix.
Maria Malagardis.
Oui, je souscris assez à ce que dit Séverine et qui est aussi une analyse très qu'elle a souvent tenue sur d'autres sujets, notamment sur cette région qu'elle connaît très bien. Juste un petit détail, l'accord de Washington entre le Rwanda et la RDC, pour l'instant, n'a pas été signé par les deux présidents. Il a été signé par les deux ministres des Affaires étrangères.
Il a été ratifié par le Parlement
rwandais, pas
hier.
Parlement congolais.
Non. Ils sont en vacances. Hein. Apparemment, c'est dans le calendrier de la rentrée parlementaire du Parlement de Kinshasa.
Le problème, c'est que Kinshasa a une attitude très ambiguë parce qu'elle vient de commencer aujourd'hui même le procès d'un ancien président congolais qui est Joseph Kabila, qui a quitté le pays et a été vu à Goma. Et alors qu'elle est censée signer un accord de paix, en réalité, elle accuse ce président d'être à l'origine du M23, de trahison à cause du M23, etc. Donc on voit bien que du côté de Kinshasa, ça serre les dents et c'est tout à fait normal parce que en réalité, dans cet accord de Washington, pour l'instant, le vrai gagnant c'est le Rwanda. Et ça c'était très inattendu parce que
qui est
allé chercher les Américains ? C'est Tshisekedi. Tshisekedi en février, il a perdu l'option militaire.
Il a perdu l'option militaire.
Le Goma, la capitale du Nord Kivu, a été prise par une coalition rebelle et son armée, les mercenaires occidentaux et les miliciens se sont effondrés comme un château de cartes. Donc, il cherche une issue diplomatique. Au même moment, il voit bien que Trump est en train de faire un chantage à l'Ukraine en disant soutien militaire américain contre deal des minerais. Lui, il va à Washington, enfin, il envoie ses émissaires et il leur dit écoutez, moi, je vous les propose, les minerais, contre un soutien diplomatique et militaire. Donc, il attendait, en offrant des contrats miniers de ce pays aux ressources fabuleuses, un soutien dans une partie qu'il était en train de perdre, alors même qu'il est en très très mauvaise position face à son opposition interne, sachant que tous les ténors de l'opposition, à part un, ont tous quitté leur vie, le pays, parce qu'ils craignaient pour leur vie. Donc Tshisekedi va avec cette intention, et qu'est-ce que sort Washington ? Washington sort en fait non pas une condamnation du Rwanda, non pas une exigence du retrait des troupes rwandaises, qui sont qualifiées de désengagement et même justifié dans l'accord de Washington comme étant des mesures de défense. C'est-à-dire qu'en fait, on justifie ce que la thèse de Kigali qui dit nous, si on va au Congo, si on s'implique au Congo, c'est parce que on craint justement la persistance d'un groupe des héritiers du génocide de 94 qui s'appelle les FDLR, qui sont toujours présents dans cette région depuis 30 ans et dont le démantèlement obligatoire est l'une des principales clauses de l'accord de Washington. Donc, on n'est pas du tout dans un accord tel que l'avait imaginé Tshisekedi au départ, qui était celui qui, finalement, a initié cette implication du président américain.
Bob Kabamba, on voit là les tenants et les aboutissants, mais alors est-ce que cet accord est capable de produire une paix à moyen terme ?
Non, comme on vient de le souligner, effectivement, cet accord ne va pas du tout essayer d'imposer ou bien de pouvoir proposer un cadre qui va permettre à ce que la paix puisse s'installer. Comme on l'a bien souligné, cet accord n'est même pas encore mis en œuvre, parce que pour que un accord soit mis en œuvre, il est importantissime que l'accord soit validé de deux côtés, ratifié du côté rwandais et ratifié du côté congolais. Or, du côté congolais, cet accord n'a même pas encore été accepté au niveau du gouvernement congolais pour entrer dans ce qu'on appelle le processus de ratification. On en est encore très loin. Même si le Parlement congolais est en vacances, il y a possibilité de pouvoir convoquer ce qu'on appelle une session extraordinaire. Oui, même tout ça, ce n'est pas fait. Et donc, on voit bien que dans la volonté de Kinshasa, il n'est pas question de pouvoir aller vers la paix et sur le terrain déjà, en essayant de voir un peu les éléments qui nous reviennent du terrain. On se rend bien compte qu'il y a deux axes militaires qui sont en train deux fronts militaires qui sont en train de se consolider, notamment Uvira avec l'appui du Burundi pour espérer réattaquer et reprendre la ville de Bukavu dans le sud Kivu, et il y a Walikale dans le nord Kivu avec l'espoir de pouvoir y attaquer, reprendre Goma. Or, cette option, on l'a répété déjà aussi, l'option militaire, à chaque option militaire définie par Kinshasa, c'est toujours l'échec, c'est toujours les défaites. L'armée congolaise, malgré l'appui, malgré les mercenaires, malgré la MONUSCO, malgré les troupes de la SADC, donc les troupes régionales de la SADC, malgré l'armée burundaise, malgré les milices, donc plus ou moins 60 000 hommes qui sont concernés, équipés et armée, malheureusement, cette armée n'arrive pas à reprendre un centimètre carré à la rébellion. Par contre, elle continue à perdre. Mais c'est l'option qui est chaque fois privilégiée au niveau de Kinshasa avec les résultats que nous connaissons. Et je voudrais aussi réinsister sur le fait.
Rapidement, s'il vous plaît, oui.
Par rapport à Washington, oui, c'est le Rwanda qui gagne. Puisque dans l'accord, il est spécifié que le Congo et le Rwanda vont travailler à ce que deux choses, c'est que l'approvisionnement en minerais soit de manière légal, c'est-à-dire que l'acheminement de minerais du Congo vers le Rwanda soit fait de manière légale. Ensuite,
alors qu'il était jusqu'ici plutôt l'objet de contrebande.
Exactement, de contrebande. Deuxième élément, c'est qu'on permet au Rwanda justement de pouvoir ajouter une plus-value à ces minerais pour que ces minerais se retrouvent sur le marché international avec l'appui des entreprises américaines. Et lorsque l'on regarde où sont les entreprises américaines, au Congo, il n'y a pas d'entreprises américaines. Les entreprises américaines sont présentes au Rwanda. Et comme on voit que les entreprises américaines sont présentes au Rwanda, il y a même des accords, des lettres d'intention qui ont déjà été signées par plusieurs entreprises américaines avec les entreprises rwandaises pour justement potentiellement exploiter les ressources minières donc qui viendraient du Congo. Donc Washington, c'est pour le Rwanda avec l'appui de Washington.
Il est 18h41 et vous écoutez France Culture.
France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
La mentalité actuelle au Congo est aussi à la base de nos problèmes. Le tribalisme s'est exacerbé. On l'a vu à mon élection. Il y a certains malins qui se disent opposants ou qui ont prétendu avoir remporté les élections, qui ont agité la corde tribale. Ils ont joué sur ça. Ils ont poussé certains Congolais à en attaquer d'autres, jusqu'à en tuer. Il y a eu des victimes de mon élection, tuées parce qu'ils appartenaient à la même tribu que moi. Et ça, c'est inacceptable. C'est contre ça que je lutte, parce que je veux un Congo uni. Ce n'est que comme ça que nous pourrons faire face au défi du développement. Je ne connais aucune nation, aucune organisation qui a pu réussir en étant divisée.
Vous êtes bien sur France Culture dans Question du soir consacrée aux fragiles conditions de la paix au Congo, en République démocratique du Congo, en compagnie de Maria Malagardis, grande reporter à Libération, Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège aux sciences politiques, et Séverine Hautser, professeur en sciences politiques à l'Université de Columbia. On vient d'entendre la voix du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, c'était en 2019. Alors, il parle du tribalisme et il parle de l'unité du Congo. Et c'est de cela aussi que vous nous parliez tout à l'heure, Séverine Hautser, lorsque vous disiez que ces accords étaient faits par le mauvais bout, en fait, par le mauvais endroit. Qu'est-ce que nous savons aujourd'hui des attentes sociales des Congolais?
Ce qu'on sait, c'est très simple, c'est que comme tout peuple que je connais au monde, ce qu'ils veulent, c'est la paix. Ils veulent pouvoir vivre sans se demander s'ils vont être attaqués pendant la nuit, si leurs enfants vont se faire attaquer sur le chemin de l'école, leurs femmes vont se faire violer. Ils veulent pouvoir avoir une vie tout à fait décente. Hein. Et ça, les gens qui vivent dans les provinces de l'Est n'ont pas cette possibilité. Et ce qui est très important, c'est que vous citiez le président Tshisekedi qui nous parlait du tribalisme, mais ce n'est pas l'unique cause de la violence au Congo. Il y a bien sûr des tensions ethniques, mais il y a aussi de nombreuses tensions politiques, on en a parlé. Il y a des tensions autour du pouvoir coutumier qui est très important, il y a des tensions économiques. Et on parlait de ces accords de paix à Washington et à Doha. Et le problème de ces accords de paix, c'est qu'ils ne prennent en compte que quelques-unes des causes de la violence au Congo. Et ils ne prennent pas du tout en compte toute la conflictualité locale, tous les enjeux sociaux, économiques. Et c'est vraiment grave, parce que quand on est à l'est du Congo et qu'on discute avec les gens qui se battent, ils nous disent bien, ils nous disent « moi je me bats pour ma terre, je me bats pour mon village, je me bats pour savoir... » comment je vais survivre demain? Comment je vais faire pour nourrir ma famille? Et pour ça, l'accès à la terre est extrêmement important. C'est vraiment un peuple de cultivateurs où l'accès à la terre vous permet de survivre, vous donne une place dans la communauté. Et les gens me répètent toujours que oui, c'est très important d'avoir un accord de paix qui est signé entre deux pays, etc. Mais tant qu'on ne prend pas en compte ce que eux vivent au quotidien, ces accords de paix n'ont aucune chance de réussir.
Alors, il y a justement un rapport de la Banque mondiale qui a été publié mardi. La Banque mondiale qui alerte sur les déséquilibres structurels de la RDC et qui dit, je cite le rapport, en tout cas la synthèse du rapport, que malgré une croissance économique soutenue, la République démocratique du Congo peine à transformer cet essor en progrès social. Est-ce que le gouvernement de Tshisekedi, au-delà de ces accords de paix, de ces tractations diplomatiques, prend des engagements auprès des Congolais?
Non, les termes de la Banque mondiale sont extrêmement pudiques. Le Congo, la RDC de Tshisekedi, est en plein effondrement. C'est une véritable catastrophe. Ce pays a souvent été pillé par ses dirigeants, mais de l'avis de beaucoup d'acteurs économiques qui avaient accueilli avec plutôt enthousiaste, d'ailleurs pour certains d'entre eux, l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir en 2018.
Réélu en 2023.
On n'a jamais atteint un tel pillage. Les proches de Tshisekedi sont l'objet d'une plainte en Belgique, parce qu'ils sont belges. Ce sont des Belges. Ce sont des Congolais d'origine, mais qui ont la nationalité belge. En Belgique, au début de l'année, pour spoliation et prédation dans le Katanga, qui est une autre région de l'Est, qui est en réalité le vrai coffre-fort de la RDC, puisque autant à l'Est, il y a des ressources très importantes, mais qui sont exploitées de façon artisanale, au Katanga, là on est à l'échelle industrielle, et les gains et les profits se chiffrent en milliards.
D'ailleurs, ces minerais du Katanga hein, qui
les minerais
qui
du Katanga,
mis en valeur
notamment
par
le cobalt, le coltan, il faut savoir que la bombe de Hiroshima, l'uranium, venait du Katanga. C'est une région, depuis toujours, extrêmement, extrêmement riche et qui est le vrai coffre-fort, bien plus que l'est du pays. Donc, la famille présidentielle fait main basse sur ses ressources, selon la plainte qui a été déposée par 4 anciens dirigeants de la GECAMINE, la Société Nationale Minière. Et je voudrais à ce propos vous citer pour comprendre pourquoi Trump a changé finalement, quand Tshisekedi est venu le voir pour demander son aide, a changé d'avis. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Trump? Il a envoyé 2 émissaires. Le premier, c'est un émissaire officieux qui est un de ses amis, son ancien médecin, et qui est aussi le président du sous-comité à la de la sécurité à la Chambre des représentants. Ce Ronnie Jackson va à Kinshasa, va dans le Katanga, puis va à Kigali. Il revient aux États-Unis le 25 mars, il fait devant la Commission des affaires étrangères à Washington un discours d'où ressortent 2 choses. La RDC, c'est un Far West, il n'y a pas d'état de droit. Et deuxièmement, ce qu'il a constaté, c'est l'enrichissement des membres du gouvernement et de leurs familles alors que la population crève de faim.
Mais alors, concrètement, est-ce que aujourd'hui, concrètement et rapidement, Maria, le temps avance dans cette émission. Est-ce que aujourd'hui, le gouvernement de Tshisekedi a les moyens de reprendre le contrôle du pays? Si la paix advenait, admettons, si les armes étaient déposées, est-ce que ce gouvernement a la possibilité matérielle, économique, technique de tenir la République démocratique du Congo?
Hélas, le soupçon, c'est que le gouvernement Tshisekedi n'a aucune intention de reprendre le contrôle et plutôt entretient le chaos. Ça me fait rire quand j'entends, moi, Tshisekedi parler de tribalisme en 2019. Parce que s'il y a quelqu'un qui a placé les membres de son ethnie à tous les postes de gouvernement, s'il y a quelqu'un qui a nourri la suspicion à l'égard des autres ethnies, non seulement de l'Est, les Swahilifones de l'Est, et pas uniquement les Tutsis, mais aussi les Katangais. Il y a actuellement dans les geôles de Kinshasa 43 officiers Katangais qui sont enfermés sans procès. C'est en fait la gouvernance Tshisekedi a finalement amplifié. Et Séverine a raison de dire que c'est pas la seule cause. Et effectivement, Bob Kabamba a raison de dire que les problèmes à l'Est remontent à avant 94. Mais ce qui est certain, c'est que Tshisekedi, depuis 2019, a amplifié ce caractère ethnique et ces clivages ethniques au
cette point communautarisation d'en faire une bombe, de la vie politique que nous décrivait tout
à
l'heure
une bombe nationale.
Bob Kabamba, sur les moyens de contrôle du territoire.
Oui, Tshisekedi est incapable de pouvoir reprendre le contrôle du pays, puisque sa politique se résume en une seule chose, faire tout pour pouvoir continuer ce qu'on appelle la politique de prédation. Et cette politique de prédation passe d'abord par le pillage du coffre-fort qui est le Katanga, avec effectivement la plainte qui est à Bruxelles. Lorsque l'on lit le dossier de cette plainte, on est ahuri et vraiment scandalisé parce qu'on peut y lire de ce qui est en train de se passer dans cette province. Et quand on compare ce qui se passe dans cette province par rapport à l'Est, on parle de 1 à 1000, voire 100 000, différence de 1 à 100 000 en termes de différence entre ce qui se passe à l'Est en termes de ressources et par rapport à ce qui est en train de se passer. Et tout se résume en ça. Et on peut même aller même plus loin. Le fait que Tshisekedi continue à opter pour l'option militaire, c'est pour continuer à ponctionner les maigres ressources de la RDC, soi-disant pour acheter des armes. Et nous savons très bien que ces achats des armes ne se font pas. Ça se dilapide entre les différentes mains, entre les différents membres de sa structure familiale. Et tout le système politique de Kinshasa est basé sur la famille. La famille avec trois pôles. Le pôle de la maman, le pôle de la femme et le pôle des frères et sœurs. Et qui contrôle l'essentiel. Il contrôle d'abord le système sécuritaire, puisque ce sont petits frères qui gèrent tout le système sécuritaire de la RDC. Ça passe sur le système politique où ce sont notre frère qui se autoproclame comme le gestionnaire politique de la famille et la maman qui place les ministres en fonction de ses envies, en fonction de l'allégeance de l'un ou de l'autre. Et tout ce système-là, il n'est que basé sur la prédation. Et tout ce qui n'est pas dans la prédation ne concerne pas, n'a même pas le moindre degré d'intention de la part de Kinshasa. L'épreuve, c'est que les différents accords ne sont même pas mis en œuvre, à part Washington. Il y a Doha. Doha, on a signé, mais jusque-là,
signé il y a 10 jours, et jusque-là, effectivement, le calendrier est très restreignant, très, très contraint, proposé par cette déclaration de Doha n'a pas été respecté. Peut-être le sera-t-il. Une autre question, lorsqu'on parle de paix, c'est évidemment la question de comment on fait pour désarmer, démobiliser les milices lorsqu'on essaye de tenter de penser à la construction d'un État et à la paix. Séverine Hautser, il y a un exemple, peut-être que vous le trouverez un peu lointain, c'est celui de la Colombie qui, après 50 années de conflit, a signé en 2016 un accord de paix entre le gouvernement colombien et la principale guérilla du pays, les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Et l'un des points de ces accords de paix, l'un des points centraux, c'était la démobilisation et la réinsertion pour les anciens combattants. Alors aujourd'hui, il y aurait 13 000 anciens combattants qui auraient bénéficié de mesures diverses de réinsertion, même si on voit 9 ans passer après ces accords, que la réinsertion économique et la participation à la vie politique est extrêmement précaire. Est-ce que ce genre de mesures, ce genre d'accompagnement, de démobilisation, de désarmement, de réinsertion, et que ce sont des choses qui sont évoquées, qui sont évocables dans le cas congolais ?
Bien sûr, c'est quelque chose qui est extrêmement important et que d'autres négociations de paix, d'autres accords de paix ont mentionné dans le passé. Je pense à l'accord cadre, par exemple, qu'il y a eu à Pretoria en 2002, à Sun City en 2003. On en a parlé pendant l'accord de Goma en 2008. Enfin, je ne vais pas vous faire l'historique de tous les accords de paix. Ce qui est très important, c'est que tous ces accords de paix, quand ils ont été négociés, ils ont mentionné des grands principes par rapport à la démobilisation et à la réinsertion des combattants. Mais ces grands principes n'ont pas été mis en œuvre sur le terrain. Et ils n'ont pas été mis en œuvre, en fait, parce que les communautés impliquées, les gens qui se battaient, les chefs locaux des milices n'avaient pas été impliqués dans la négociation. Quand on regarde l'exemple de la Colombie, ou on peut aussi regarder d'autres exemples de construction de la paix qui ont marché dans le monde, on peut regarder par exemple le Libéria, on peut regarder le Somaliland, au nord de la Somalie, c'est mon exemple préféré de réussite de la construction de la paix. On peut aussi regarder au Congo l'île d'Ichoui, et on s'aperçoit que pour que la paix en fait marche, pour qu'on ait vraiment une diminution de la violence ou une élimination de la violence, il faut que ces processus commencent par le bas. On peut regarder aussi la plaine de la Ruzizi qui est à la lisière du Burundi dont on parlait il y a 10 minutes. À chaque fois qu'on a vu une amélioration notable, c'est parce que des organisations congolaises, parfois appuyées par des organisations étrangères ou par les Nations Unies, avaient réussi à se mettre ensemble, à mettre ensemble les habitants des villages, les combattants, les petits chefs de guerre, tous les gens qui vivaient le conflit, et à leur dire, bon, c'est quoi votre analyse du conflit? C'est quoi, d'après vous, la solution? Pas la solution d'après moi, qui vit à New York, à Genève, à Washington, à Doha, même à Kinshasa, mais d'après vous qui vivez le conflit, c'est quoi la solution? Et après de leur demander, ok, si c'est ça la solution, comment on fait? Comment est-ce qu'on la met en œuvre? Et par exemple, à Ijoui, pour réintégrer tous les gens qui se battaient, ils ont décidé de s'appuyer sur des structures locales, sur leurs croyances locales, comme la magie, les pactes de sang. À la Ruzizi, ils ont décidé de mettre en place des chemins pour que le bétail puisse se déplacer, et pour des comités de médiation entre les fermiers et les agriculteurs qui se battaient. Enfin, des choses extrêmement locales que forcément, quand on est à Paris, à New York, à Doha, à Washington, on ne peut pas...
Qui passent entre les mailles des filets des grands accords internationaux.
Exactement, on n'y pense pas parce que les gens qui négocient ces grands accords de paix ne connaissent pas suffisamment bien toute cette richesse de la conflictualité locale et aussi toutes les ressources intellectuelles, créatives des gens qui vivent le conflit et qui savent très bien, si on leur demande, ils savent très très bien comment on peut le résoudre.
Alors,
conflit.
Il nous reste malheureusement qu'une minute d'émission dans Question du soir. Donc en 30 secondes, Maria Malagardis, il y a ce dicton Congo et Kobongate en lingala, le Congo ne sortira jamais du trou dans lequel il se trouve. Est-ce que ce qu'évoque Séverine Hautser pourrait être un moyen d'en sortir?
Je connais bien les réflexions de Séverine Hautser. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce genre de malheureusement de d'enjeux et de dilemmes. Aujourd'hui, on est face à une bataille rangée entre un groupe qui contrôle un territoire grand comme la Belgique et une opposition interne qui tous deux sont finalement ont un même objectif, c'est-à-dire faire tomber le régime Tshisekedi qui en réalité a complètement ruiné son pays.
Même question en 15 secondes, pardonnez-moi Bob Kabamba.
Merci. Pour en conclusion, je dirais simplement qu'il est impératif de pouvoir reconstruire l'État congolais. Sans l'État congolais, il sera difficile de pouvoir arriver à répondre aux attentes de la population, sécurité, paix, santé, éducation, cohabitation pacifique. Et tous les processus doivent s'accompagner de la consolidation de l'État. Si on n'a pas ça, et donc on va continuer à tourner en rond, et cette conflictualité va rester permanente, malheureusement, au détriment de la population civile, qui est toujours la première victime de ce genre de conflit.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous trois. Maria Malagardi, je rappelle, vous êtes grande reporter à Libération. Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège, spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs. Séverine
Catherine Hautser, professeure des universités en sciences politiques à l'Université de Columbia. Merci également à Maud Yaïch et Alice Chavaran pour la préparation de cette émission, à Loïse Guérin à la programmation. Merci à toute l'équipe, Théa Corler, Paul Venerster, Vivian Lecuivre à la réalisation, à la technique ce soir, Ruben Karmazine. Quant à nous, rendez-vous demain pour une autre question du soir qui sera consacrée au sens de la fête. En attendant, bonne soirée sur France Culture.